Bienvenue, nous sommes le vendredi 9 septembre, voici les titres de votre journal local avec Charlotte Solana. Bonjour Charlotte.
Bonjour Kevin, bonjour à tous. À la une, ce vendredi, on parlera de Vinci Airport qui a été désigné ce vendredi par l'État pour reprendre la concession de l'aéroport de Tahiti Faa'a. On s'intéressera aussi au sujet des indemnités d'éloignement des fonctionnaires d'État affectés à la Polynésie. La CSTPFO va amender le texte de loi de Lana Tetuanui. Et puis en sport, on reviendra sur la large victoire de la sélection tahitienne U19 contre Tonga. C'était jeudi soir au stade Pater, score final 8-0.
La concession de l'aéroport Tahiti Faa'a attribuée à Vinci.
Et oui, 6 mois après l'annulation définitive de l'offre Aegis, actuel concessionnaire de l'aéroport international de Tahiti Faa'a, l'État à qui le pays et les salariés d'ADT avaient demandé d'accélérer la cadence sur ce dossier a choisi de ne pas relancer un nouvel appel d'offres. Le ministère de la Transition écologique et chargé des transports a préféré attribuer la concession au groupe arrivé second lors de la dernière procédure d'attribution. Il s'agit donc du groupe Vinci Airport, géant du secteur qui gère une quarantaine de plateformes dans le monde. Le groupe français devrait donc créer une nouvelle société d'exploitation avec le pays qui en sera actionnaire à 49% comme c'est le cas aujourd'hui d'ADT. La nouvelle concession doit être mise en œuvre à partir de la fin du premier semestre 2023 et durer 40 ans. Difficile pourtant d'affirmer que c'est la fin du feuilleton de la concession qui dure depuis plus de 12 ans. La CCISM, arrivée troisième du dernier appel d'offres avec son groupement, avait déjà prévenu qu'elle lancerait de nouvelles procédures judiciaires si une nouvelle action n'était pas envisagée.
Emploi local chez les fonctionnaires d'État, les syndicats font leurs propositions.
Édouard Fritsch a reçu jeudi après-midi les représentants syndicaux des fonctionnaires d'État en Polynésie, ainsi que la sénatrice Lana Tetuanui pour débattre de la proposition de loi déposée le 8 août dernier par la sénatrice, à laquelle les syndicats non consultés avaient réagi avec stupeur. Ce texte propose de supprimer l'indemnité d'éloignement des fonctionnaires d'État affectés à la Polynésie française, une prime d'au moins 5 mois de salaire par affectation de 2 ans qui serait devenue pour l'élu Tapura trop incitative. L'idée serait donc de la balayer pour favoriser le retour des fonctionnaires d'État polynésiens de métropole et le recrutement local. La sénatrice a une fois de plus justifié sa démarche par la frustration des Polynésiens à l'égard de l'emploi local.
Chacun interprétera à sa façon. En tout cas, moi, c'est une frustration grandissante ici, dans ce pays où on réclame haut et fort à ce que les postes soient pourvus par des Polynésiens.
Du côté de Force ouvrière, on avait déjà dénoncé cette loi comme une manœuvre purement politique, que si elle était adoptée, pèserait sur l'économie locale une perte près de 10 milliards de francs par an d'après Patrick Galnon. Risquerait de laisser des postes vacants aux Fénois. La délégation s'est dite satisfaite de l'écoute du président et de la sénatrice. Tout le monde a compris les demandes de chacun, précise Alain Sanker, secrétaire général de FGF-FO en Polynésie. Comme d'autres syndicats, l'UNSA notamment, il demande plutôt que de supprimer l'indemnité d'éloignement, son extension aux Polynésiens envoyés en métropole pour commencer leur carrière de fonctionnaire d'État. Écoutez Alain Sanker.
La réciprocité de cette loi, c'est aussi bien bénéficiée dans les deux sens. Hein. C'est un peu la démarche, en fait, en tous les cas, pour nous, en tant qu'organisation syndicale, et non pas une suppression pure et nette du dispositif. Et il a été sujet aussi du point de CMM. Aussi, la sénatrice a été aussi dans notre sens du fait qu'il fallait quand même régler cette histoire de CMM sur le premier critère des 15 ans de résidence, qui permettrait effectivement de bien cibler les demandes de CMM pour les originaires qui veulent donc revenir sur le pays.
Une position que Lana Tetuanui, sans s'y ranger formellement, a accepté de discuter davantage. Le syndicat, la sénatrice, devrait se rencontrer de nouveau et éventuellement apporter des amendements à la proposition de loi qui est, quoi qu'il arrive, encore bien loin d'un vote à Paris.
Un carambolage sur la RDO.
Oui, il s'est produit ce matin vers 5h30 sur la RDO dans le sens Punaouya-Papeete à hauteur du pont de Saint-Hilaire. D'après les premiers éléments, le carambolage impliquant une dizaine de véhicules, dont un scooter et un fourgon, a fait un blessé léger selon les confrères de TNTV. Un accident qui a provoqué de gros embouteillages durant plusieurs heures. La situation ne s'est débloquée que vers 9h ce matin.
Feu vert pour le bois marquisien.
La société d'exploitation de bois marquisien de Gérard Sioux, qui va implanter une scierie à Nukuhiva, ambitionne de produire 50% du bois de construction utilisé au Fénois en 2025, contre 10 à 15% actuellement, et une grande majorité du bois de construction importé des États-Unis et de Nouvelle-Zélande. Le bail de location d'une durée de 25 ans a été signé ce jeudi avec le pays.
L'association du tourisme authentique inaugure son guichet chez Air Tahiti.
Et oui, depuis ce jeudi, un comptoir d'information est désormais ouvert au sein même de l'agence Air Tahiti, actuellement délocalisée au centre philanthropique chinois. Le temps du réaménagement de ses locaux à quelques mètres de là, le comptoir sera maintenu dans la nouvelle agence. Il est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h à midi. Air Tahiti commercialise les séjours dans les îles, mais ces formules ne concernent qu'une petite partie de l'offre d'hébergement. L'association du tourisme authentique regroupe 146 pensions de famille et 87 prestataires. Ce comptoir va nous permettre de mettre en avant d'autres pensions et les nombreuses activités proposées en Polynésie. Explication avec la présidente de l'association, Mélinda Baudin, et son vice-président, Vatea Aline.
Pour nous, c'est un honneur et une joie de revenir au sein de cette compagnie qui a toujours été avec nous. Au-delà du tourisme authentique, ce sont tous ces acteurs économiques de toutes nos îles qui travaillent avec nous.
Avec le comptoir, on met le client en contact avec les différents prestataires et les hébergements des îles pour pouvoir faire un voyage complet.
Vous pouvez retrouver toutes les informations complètes sur notre site radio1.pf.
Mobilisation générale au musée de Tahiti et des îles.
Ce sera l'occasion des journées du patrimoine organisées du 15 au 18 septembre. Du conservatoire à la maison de la culture, en passant par le service de l'artisanat, les archives ou la DCP, toutes les administrations culturelles ont répondu présentes pour investir les jardins du musée à la pointe des pêcheurs. Au programme donc des ateliers en rapport avec la musique, le tapas, la danse ou le costume, des animations, des visites pour les petits et les plus grands et trois soirées exceptionnelles. De quoi patienter un peu avant la réouverture du musée, explique Myriam Abono, sa directrice.
Cette année, c'est la première fois oui, qu'on a autant d'établissements qui participent. Hein. Même si on essaie toujours évidemment d'en faire une grande fête, il n'y a pas forcément autant de mobilisation. Là, je pense que ça s'explique déjà par le fait qu'on a été empêchés pendant 2 ans de pouvoir mener des activités. Donc, on est tous très heureux de pouvoir le faire. Et puis également, même plusieurs moments, notamment cette commémoration en hommage à la reine Pomaré, faisait que ça faisait sens pour tous les établissements de pouvoir apporter cette touche un peu spéciale. Donc voilà, il faut en profiter. C'est pas souvent qu'on est tous réunis sur le même site à pouvoir proposer autant de choses. Et j'espère que le public répondra présent.
Ces journées du patrimoine seront l'occasion de commencer à fêter les 20 ans du FIFO, le festival de documentaires océaniens, qui offrira une soirée de projection le jeudi 15 septembre. La soirée du vendredi sera dédiée à la musique avec le concours de guitare Fakareva Tita. Quant à la soirée de samedi, elle sera dédiée aux 145 ans de la mort de Pomare Vaine, la dernière reine de Tahiti. Une célébration de l'histoire, explique le ministre de la Culture.
Même si une autre reine vient de décéder, c'est bien aussi de célébrer notre histoire à nous et de célébrer une reine qui a eu quand même 50 ans de règne. Elle n'était pas destinée à devenir reine. Elle l'est devenue en raison du décès de son frère Pomare III et elle s'est retrouvée parachutée reine du jour au lendemain sans aucune préparation. Et finalement, elle a réussi à avoir un des plus longs règnes de l'histoire de ce monde. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.
Le ministre qui explique qu'une exposition dédiée à la reine sera installée dans les jardins. Le collège Pomare 4 a préparé une animation, John Merey une conférence et le groupe Hey Tahiti de Tiare Trompette organise un spectacle spécialement pour l'occasion. Le tout gratuitement, ce sera le samedi 17 septembre au musée de Tahiti.
Côté sport, les Aito Torea écrasent Tonga pour leur début.
Avec un score de 8-0, la sélection tahitienne U19 a entamé victorieusement le championnat U19 de l'OFC en battant très largement Tonga jeudi soir au Stade Pater. Les Aito Torea doivent disputer leur deuxième match du groupe B dimanche contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La présence des Papous est incertaine pour cause de problèmes de visa. Les Tahitiens devront toutefois poursuivre leur parcours dans la compétition s'ils veulent espérer aller au moins en finale pour décrocher l'un des 2 billets pour la Coupe du Monde U20 organisée en mai prochain en Indonésie.
Stéphanie Gilmore et Philippe Toledo, champions du monde de la WSL.
La finale du tour mondial de la World Surf League s'est terminée hier en Californie. Les champions du monde de surf 2022 sont le Brésilien Philippe Toledo, c'est son premier titre mondial, et l'Australienne de 34 ans Stéphanie Gilmore qui devient la surfeuse la plus titrée de l'histoire avec cette 8e victoire. La seule représentante de l'Hexagone, Joanne Defay, termine 3e de la compétition. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 16h pour le Flash Local. Très belle journée à tous.
Merci beaucoup Charlotte.